Voilà, alors nous voici à la Mangie, auprès de Guy Dabat. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes un enfant du pays, un enfant d'ici. Vous êtes témoin de pas mal de choses qui se sont vécues et qui se vivent à la Mangie. Vous allez un petit peu nous raconter. Alors, on va commencer par votre témoignage par rapport à la chapelle, puisque c'est un petit peu comme ça qu'on s'est croisés tout à l'heure devant cette chapelle de la Mangie. Et vous avez souvenir des tout débuts. Du temps de la bénédiction, vous y étiez.
Mais oui, parce qu'à l'époque, mes parents étaient commerçants à la Mangie. Donc, j'habitais à la Mangie toute l'année, étant gamin. Et j'ai vu, c'est vrai, construire la chapelle. Et comme on a pu le voir tout à l'heure sur la photo d'inauguration, je me trouve au premier rang sur cette photo. Donc, voilà.
Aujourd'hui, la chapelle, elle représente quoi dans, alors j'allais dire dans ce village, mais la Mangie, c'est un quartier de Bagnères-de-Bigorre.
Oui, mais la chapelle, ça, c'est un petit peu le point de repère de la station, parce qu'elle est là depuis, on a l'impression qu'elle est là depuis toujours. Donc tout le monde la voit, elle a un endroit ensuite très, très important, puisqu'elle est au départ et au retour des pistes. Et ensuite, cette chapelle, elle est énormément photographiée, surtout la nuit.
Voilà, donc il y a des gens qui la photographient, mais il y a des gens qui rentrent aussi. C'est important pour les personnes qui fréquentent la station de rentrer dans cette chapelle, de prendre un petit temps de pause dans cette chapelle.
Oui, mais la chapelle est fréquentée. On voit tous les jours, à longueur de journée, des gens qui rentrent dans la chapelle, qui font faire des visites. D'une part, des gens qui vont peut-être faire des prières, mais d'autre part aussi qui la visitent, parce que c'est une chapelle construite, vous avez pu le voir, toute en pierre. Et donc, elle est quand même très intéressante à visiter. Il y a aussi dans le fond des fresques qui ont été dessinées par un peintre local qui s'appelle Bruno Schmelz
Ouais.
et qui était également moniteur de ski.
Ah, voilà. On va reparler des skis dans quelques instants. Mais alors, pardon, mais si cette chapelle est ouverte, c'est qu'il y a quelqu'un quand même du coin qui prend le temps de l'ouvrir et de la fermer. Elle n'est pas ouverte constamment, donc il faut quelqu'un qui veille quand même.
Mais oui, il y a
C'est vous, pas toujours?
c'est moi, pas toujours. En principe, l'été, c'est pas moi. Mais après, pendant l'hiver, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Fabre, qui est aussi un ancien de la station, qui est là pendant toutes les vacances scolaires. Et c'est lui qui se charge d'ouvrir la chapelle et de la fermer tous les soirs. Et après, quand il n'est pas là, moi, j'ai une clé, donc j'essaie de le faire dans la mesure où je suis libre et où je suis disponible pour pouvoir être là à l'ouverture et à la fermeture en fin de journée.
Pour vous, c'est important de rendre ce service.
Mais oui, parce que c'est une demande. Il y a énormément de gens qui arrivent et quand ils arrivent à la chapelle et qu'ils trouvent porte close, c'est un petit peu gênant et c'est important surtout pour des gens qui souvent ne skient pas et qui ont envie de passer un petit moment ou de visite ou de recueillement dans la chapelle.
Alors j'ai entendu dire, vous allez me dire si c'est vrai, que quelquefois, peut-être davantage pendant les vacances scolaires, il y a des temps de prière, des messes, des célébrations, et que parfois, eh bien, les skieurs descendent tout juste de leur ski et même arrivent dans la chapelle avec leur ski qui reste au fond de la chapelle. Vous confirmez ça?
Oui, je confirme. En principe, il y a ou une messe ou un moment de prière tous les samedis à 17h. Et souvent, il y a des habitués de la station qu'on voit absolument tous les samedis. Et puis, il y a aussi des skieurs, puisque c'est au moment du retour du ski, puisque les pistes ferment à 17h. Donc, on voit des gens, bien sûr, en tenue de ski, en équipement, aller pour ces moments de prière ou de recueillement. Oui.
Voilà, donc c'est quand même un lieu atypique. Alors maintenant, on va parler un peu plus largement autour de cette chapelle. Bah, évidemment, là, en cette saison, c'est tout blanc, c'est magnifique. C'est la saison du ski qui bat son plein. Ça a bien démarré déjà pour les vacances de Noël. Il y avait déjà pas mal de neige.
Oui, les vacances de Noël se sont bien passées, comme toujours, la première semaine, avec le jour de Noël, c'est toujours un petit peu plus calme, et une deuxième semaine où il y a eu une très forte fréquentation de la station.
Très forte fréquentation, ça veut dire jusqu'à combien de personnes?
Oh, il y a eu des journées 11 500 skieurs sur le domaine skiable du Tourmalet.
On peut quand même skier quand il y a autant de monde? On est à l'aise encore pour skier?
Mais quand toutes les remontées, toutes les pistes sont ouvertes, les gens se répartissent et oui, on arrive à skier à peu près normalement, oui.
C'est quel public davantage ici? Est-ce qu'il y a plus de familles, des jeunes, des groupes, enfin, des groupes de copains, ou c'est un peu tout? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge ou catégorie un peu plus privilégiée ici ou qui est plus à l'aise ici?
Non, je pense pas. Je pense que c'est. C'est un problème. Absolument toutes les catégories, on retrouve de tout sur les pistes. Effectivement, pendant les vacances, on voit énormément d'enfants parce qu'il y a des cours à l'école de ski avec énormément d'enfants, entre 7 et 12 et 13 ans, qui sont dans les cours. Mais après, sur les pistes, on retrouve absolument de tout. Oui.
Et là, en janvier, c'est davantage les élèves qui viennent avec leurs écoles. Hein.
En janvier, il y a pas mal de classes de neige pendant la semaine. Et après, les week-ends, une clientèle habituelle et normale, hein, voilà, plutôt un petit peu locale, oui.
Vous-même, vous avez été moniteur de ski, enfin, quand on l'a été, on l'est toujours, j'imagine.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que quand on a besoin de renfort, on vous appelle, quoi.
Ça arrive de temps en temps pendant les vacances où le directeur d'école de ski nous appelle parce que, bon, il y a vraiment beaucoup de monde et il nous appelle pour des renforts pendant quelques heures dans la journée. Oui.
Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous aimez dans ce métier d'apprendre à skier ?
Bon, d'abord, il y a le site, on est content d'être sur la neige dans un site agréable. Et puis ensuite, il y a surtout l'enseignement. Surtout avec les enfants qui, en général, c'est des cours pendant les vacances qui durent 5 jours, 6 jours. Et on arrive en 6 jours à faire vraiment des progrès très, très importants aux enfants. Et dans la semaine, c'est vraiment fantastique.
Vous avez appris à skier tout petit ?
Oui.
À quel âge ?
Bon, disons aux alentours de 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans.
Vous skiez tous les jours, là, en ce moment ?
Non, pas en ce moment, parce que bon, on s'occupe un peu aussi du magasin, ici, et donc, voilà, on essaie de faire les deux.
Alors, le magasin, Ski Shop, d'ailleurs, vraiment à deux pas de la chapelle. Donc, le public qui vient skier, vous les recevez ici pour bien les équiper. C'est quoi le bon équipement pour skier ?
L'équipement, vous savez, maintenant, il y a eu énormément de progrès dans le matériel de ski. Donc, les équipements sont tous de très, très bonne qualité. Et après, bon, il peut y avoir aussi des skieurs qui sont d'un très, très bon niveau et qui demandent des équipements avec du matériel un peu plus haut de gamme.
Vous, c'est aussi votre métier aujourd'hui, de les conseiller, d'être à l'écoute de ce qu'ils savent faire ou de ce qu'ils veulent faire pour leur choisir le meilleur matériel.
Oui, mais après, vous savez, le matériel, même maintenant, le matériel débutant ou skieur moyen, c'est du très, très bon matériel. Oui. Il y a eu de grosses évolutions à ce niveau-là. Et il y a vraiment toutes les gammes de matériel trouvées dans les magasins. Voilà.
Alors, l'histoire du matériel nécessaire pour skier, qui s'ajoute au coût, bien sûr, du ski, des remontées et tout ça, ça peut être un frein quand même.
Non, je ne pense pas. La location de matériel dans la journée de ski, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Hein.
Ça coûte combien pour une journée ? Moi, si je prends le matériel pour une journée, ça va coûter combien ?
Exactement. On a un premier prix pour le matériel de ski qui est un jour 20 euros. Ski, chaussures, bâton.
Le casque, c'est les personnes qui doivent...
Parce que souvent, il y a des gens qui ont leur casque. Ah oui. Et le casque, donc, c'est en plus, c'est 7 euros pour le casque pour la journée.
Donc là, moi, pour peaufiner mon reportage, si je veux partir skier pour la journée pour Radio Présence, pour que mon reportage soit vraiment un vrai reportage, 20 euros, j'ai mes skis, mes bâtons.
Voilà, et les skis, les bâtons et les chaussures. Voilà. Et on a aussi des tarifs demi-journée, ça coûte 16 euros.
Voilà, bon, alors, c'est pas si cher que ça de s'équiper, mais c'est important de bien s'équiper pour pouvoir aller skier.
Non, il n'y a aucun souci, le matériel, vous voyez, pratiquement tout le matériel, que ce soit pour les débutants, les bons skieurs, c'est tout du matériel neuf, et il n'y a aucun souci à ce niveau-là.
Et l'entretien, une fois que la saison de ski est terminée, le matériel, vous l'entretenez comment, d'une saison à l'autre ?
On regarde le matériel, souvent c'est ce qu'on appelle la semelle des skis, le dessous des skis qui peut être rayé, abîmé. Donc à ce moment-là, on l'amène dans des gens qui refont ce matériel, qui le passent dans des machines pour le remettre en état. Voilà.
Et alors, on parle de ski, mais il y a aussi le snow. Ça marche bien ?
Ça marche bien aussi. Ça s'adresse plutôt à une clientèle plutôt plus jeune pour le snow, oui.
Et là, ici, à la Mongie, il y a beaucoup de cette clientèle qui vient ?
Il y en a aussi. Quand on regarde le domaine skiable, je vois passer des gens là-bas avec les snows sous le bras.
Bon, aujourd'hui, la Mongie, telle que vous la voyez, vous qui vivez depuis toujours, enfin, qui êtes présent depuis votre enfance, comment ça a évolué ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire quand vous observez ce qu'est la Mongie aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes nostalgique du temps passé ? Est-ce que vous êtes heureux de ce que la Mongie est aujourd'hui ?
Non, pas du tout. Il y a des évolutions. On le voit d'une part d'abord sur le domaine skiable, avec une modernisation du domaine skiable qui a eu lieu ces dernières années, avec de nouvelles remontées, de nouveaux télésièges. Voilà, il y aura encore de nouveaux télécabines les années prochaines sur le versant de Barège. Donc non, ça évolue continuellement et ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, il y a la partie urbanisée de la station, et qui n'a pas trop bougé pendant un certain nombre d'années. Et là, depuis l'an dernier, la commune essaie de réaménager les espaces publics pour essayer d'amener plus de confort, notamment améliorer le système de parking et surtout avoir beaucoup de circulation piétonne, ce qui n'existait pas trop jusqu'à maintenant. Et voilà, on y travaille depuis 2 ans. Il y a encore des projets à ce niveau-là qui vont se poursuivre encore pendant au moins 2 années.
Voilà, alors là c'est Monsieur Dabat avec la casquette d'élu qui nous parle.
Voilà, c'est ça.
Puisque, alors je le disais, la Montgis est un quartier de Bagnères-de-Bigorre et vous êtes élu à Bagnères-de-Bigorre depuis un certain nombre d'années.
C'est ça, depuis une trentaine d'années maintenant. Et j'ai fait 5 mandats et c'est... Ma délégation, c'est la Montgis, Pic du Midi, enfin tout le secteur ici, voilà.
Et là, vous vous représentez ?
Non, c'est terminé, je crois que j'ai fait mon temps, il faut laisser la place aux jeunes un peu maintenant.
Voilà. Alors, encore deux petites questions. Alors, d'abord, pour revenir au ski, on parle souvent de l'avenir des stations de ski. Qu'est-ce qu'elles vont devenir quand il y aura de moins en moins de neige ? On parle de ça dans le contexte du réchauffement climatique. Bon, aujourd'hui, quand on voit la Montgis, là, alors que je vous parle, on se dit, bon, il y a beaucoup de neige, il fait froid, ça nous semble loin, ces débats-là. Mais est-ce que c'est des choses que vous avez en tête ? Vous vous dites, ah bah oui, il faudra quand même qu'on trouve un moyen de réinventer les propositions ?
Bon, il y a 2 choses. D'une part, je pense que dans l'immédiat, on ne devrait pas avoir de soucis, puisqu'on pense qu'au moins jusqu'en 2050, des stations comme la Montgis, qui se trouvent à 1800 mètres d'altitude et qui vont jusqu'à les pistes, jusqu'à 2004 en gros, donc on devrait avoir toujours un enneigement suffisant pour fonctionner normalement. Il faut dire aussi qu'on a l'aide maintenant de systèmes d'enneigement avec ce qu'on appelle la neige de culture, qui nous aide énormément, surtout en début de saison. Donc on n'est pas trop inquiet pour l'avenir proche. Mais on pense surtout à une chose, c'est maintenant, tout le monde ne parle que de ça, c'est-à-dire la diversification, de façon à essayer, d'une part, pour amener davantage de clientèle pendant les saisons d'été, et d'autre part aussi, essayer de trouver des aménagements qui peuvent être complémentaires au ski pendant la saison d'hiver.
Et vous en pensez quoi ? Vous avez vos idées là-dessus ? Vous vous dites, tiens, il faudrait plutôt qu'on fasse ça ?
Moi j'ai des idées, mais bon, on y travaille, les communes y travaillent, l'exploitant des remontées mécaniques, la SEM du Grand Tourmalet y travaille. Là, il y a déjà des projets qui sont en cours sur Barège. Il y a des réflexions sur la Montgis avec un bureau d'études, avec peut-être des premiers aménagements qui devraient se faire à partir de 2027. Donc oui, on y travaille, bien sûr, c'est très important.
Alors ma dernière question au sujet de la neige, c'est l'interdiction de fumer en haut des pistes depuis quelques semaines. Là. Vous avez des retours, vous, là-dessus, ou c'est un comportement que, de toute façon, les usagers avaient déjà observé ?
Non, enfin, moi, personnellement, je n'ai pas de retour.
Ça ne vous a jamais dérangé ? Vous n'avez jamais été confronté à des gens qui passaient plus de temps à fumer qu'à skier dans vos leçons ?
Non, il y avait déjà depuis, alors je ne sais pas si c'est 1 ou 2 ans, une interdiction de fumer dans la queue et sur les remontées mécaniques. Et donc là, maintenant, cette année, c'est sur l'ensemble du domaine skiable. Alors bon, c'est toujours un petit peu délicat parce que le domaine skiable, c'est quoi ? C'est la limite des pistes. Si quelqu'un qui souhaite vraiment fumer, il suffit qu'il se mette de quelques mètres hors piste et on ne peut rien lui dire non plus. Donc voilà. Bon. Ou alors c'est toujours autorisé, il faut aller sur les terrasses des restaurants ou des restaurants d'altitude.
Voilà, bon, en tous les cas, c'est un petit pas pour préserver et ceux qui sont autour de nous et peut-être un petit peu la nature. Au moins, il n'y a pas de mégots qui traînent sur la neige.
C'était surtout, dans le passé, beaucoup plus gênant dans les queues des remontées mécaniques que sur les pistes. Voilà.
Merci beaucoup pour votre accueil, Monsieur Dabat. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot sur la Montgis pour que les auditeurs qui nous écoutent partout en Occitanie ils puissent, à travers vos mots, voir, comprendre un petit peu à quel point ça vaut le coup de venir à la Montgis ?
Non, mais la Montgis, c'est une station ancienne qui a progressé au fil du temps, qui a un domaine skiable important, puisqu'on dit que c'est le plus grand domaine des Pyrénées françaises. Et donc, voilà, je pense que la station du... La Montgis et le domaine du Grand Tourmalet a toujours encore un grand avenir. On a la chance à la Montgis d'avoir le téléphérique qui donne accès au pic du Midi de Bigorre. et c'est quelque chose de très important, puisque c'est aussi l'hiver, un domaine de ski hors-piste fréquenté par les freeriders, très très important, et surtout pendant l'été, une fréquentation très très importante, et qui est en progression d'année en année. Et on a aussi bientôt, on espère, avoir l'UNESCO, le classement à l'UNESCO, oui. Qui est très, enfin, le dossier est très bien avancé, et très certainement, on pense qu'en 2027, on devrait être pas loin d'aboutir.
En tous les cas, ce qu'on entend, c'est que bon, là, on est en pleine saison d'hiver, mais il y a du monde tout le temps à la Mongie, et il y a toujours quelque chose à faire, à voir, à découvrir à la Mongie.
Voilà, hiver, été.
Merci beaucoup.